Chapitre 39. Vous avez de la visite. Owen sursaute sur sa chaise. Cela fait 3 heures que son interrogatoire est terminé et qu'il est dans une cellule, sans la moindre idée de ce qui l'attend. On lui a servi un repas, une sorte de viande panée avec des patates et des haricots verts, puis un gâteau beige fourré à la confiture. Il a presque honte, car ce repas lui a plu. C'est le genre de plat que sa mère cuisinait pour lui, basique, salé, équilibré. Il a terminé tout ce qui se trouve sur le plateau. Qui sait ?
Je ne sais pas,
répond sèchement l'agent. Je dois aller voir ou je patiente ici.
Je vous emmène dans une salle d'interrogatoire. Éloignez-vous de la porte.
Il va au fond de la pièce. L'agent ouvre puis le guide dans un couloir avec des portes sécurisées jusqu'à une nouvelle petite pièce bleue. Tessie est là, emmitouflée dans un châle en velours vert, portant de grandes boucles d'oreilles en argent serties d'émeraude assorties. Son expression témoigne déjà de son mécontentement. Elle commence à parler alors qu'il n'est pas encore assis.
« Je ne vais pas rester longtemps, Owen. Je t'ai apporté quelques affaires. Ton téléphone. Mais j'imagine que tu n'y as pas droit. Des sous-vêtements et une tenue de rechange, ce genre de truc. Je ne voulais pas fouiller dans ton antre. Surtout pas après ce que la police y a trouvé. Mon Dieu, Owen. Et cette fille, Owen. Qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre gamine ?»
Tessie se prend la tête dans les mains et toutes ses bagues se cognent les unes aux autres dans un cliquettement métallique. Elle garde les yeux baissés un long moment, puis les relève. Ils sont pleins de larmes.
« Owen, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait ?»
Owen sourit. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est tellement ridicule.
« Tessie, bredouille-t-il en s'appuyant au bord de la table. Tu crois vraiment que j'ai quoi que ce soit à voir là-dedans? Qu'est-ce que tu veux que je pense? Son sang sur le mur de notre maison. Sa coque de téléphone retrouvée sous ta fenêtre. La drogue du violeur dans ton tiroir. Et toutes ces choses ignobles, atroces que tu as écrites sur Internet. Bon sang, Owen. Pas besoin d'être Miss Marple pour résoudre l'affaire. Songe à sa famille. Avoue à la police ce qu'il s'est passé.
Merde ! S'écrie-t-il en agrippant ses cheveux, puis en tapant du poing sur la table.
Je n'ai rien fait à cette fille. Je ne suis même pas sûre de l'avoir aperçue. J'ai vu une fille. Et si ça se trouve, c'était même pas une fille. C'était peut-être un garçon. Et si j'ai dit ça, c'est parce que je voulais les aider. Franchement, Tessie, si j'avais tué sa fille ou si je lui avais fait du mal, pourquoi est-ce que je raconterais à la police que je l'ai vue? Pourquoi? Réfléchis, putain! Réfléchis! Ça n'a aucun sens.
Tessie hausse les épaules en se mordant la lèvre inférieure.
Non, ce n'est pas logique. Mais Owen, rien de tout ça n'est logique. Rien. Enfin, tu as quoi, 34?
Owen soupire.
J'ai 33 ans, Tessie. 33.
Voilà. Et tu n'as jamais eu de copine.
Tu ne sors presque jamais. Tu t'habilles.
Elle esquisse un geste vague dans sa direction.
Eh bien, tu t'habilles très bizarrement pour quelqu'un de ton âge. Tu ne manges que des aliments de couleur blanche. Enfin, Owen, il faut regarder la réalité en face. Tu es très étrange.
Et du coup, j'ai tué une adolescente ? Elle fronce les sourcils en l'observant, mais ne répond pas.
J'ai parlé avec ton père. Il est très inquiet.
Je n'en doute pas, ironise Owen en levant les yeux au ciel.
Je t'assure. Je lui ai suggéré de venir te rendre visite, mais il va falloir que j'insiste. Il est un peu dépassé par les événements.
Ce n'est pas la peine, Tessie. Je n'ai aucune envie de le voir. Et certainement pas dans ces circonstances.
Owen laisse sa tête tomber sur sa poitrine, son regard plonge entre ses genoux et se fixe sur le linoléum rayé. Il est fatigué. Cela fait 2 nuits qu'il dort sur l'horrible lit de la cellule. Il a passé des heures interminables en interrogatoire, à affronter des inspecteurs le poussant tous de plus en plus fort à leur révéler où se trouvait sa firme Adox. Et Owen a vu assez de films policiers pour savoir comment ces moments sont organisés, mélangeant les approches jusqu'à ce que l'accusé ne sache plus différencier la gauche et la droite. Mais leurs tentatives pour l'embrouiller et le faire craquer resteront vaines. Car sa seule certitude est qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa firme Adox.
Barry lui a dit quelque chose d'assez intéressant hier. Apparemment, la jeune fille avait été la patiente du voisin en lycra, celui qui court. Il semblerait que l'homme soit un pédopsychiatre officiant au centre Portman. Il a suivi sa firme Adox pendant plus de 3 ans. Mais il aurait un alibi incontestable. Il était au lit avec sa femme. Owen a du mal à croire que la police prenne au sérieux un alibi aussi spécieux.
Bien entendu, on fait confiance aux gens mariés, et forcément, le soir de la Saint-Valentin, ils sont ensemble au lit. Pourquoi est-ce que des gens mariés mentiraient? Hier, il a parlé de Brine aux inspecteurs. Il n'avait pas pu trouver d'autre solution pour expliquer la présence du Rohypnol dans sa chambre. Brine comment? Je ne connais pas son nom de famille. Son adresse? Je ne sais pas où il vit, dans la banlieue londonienne. Son train arrive à Houston, c'est tout ce que je sais. Et il a 33 ans, comme moi. Et un site internet, www.tantpispourtagueule.net. Brine quelque chose, en banlieue, 33 ans, qui a un site. Dire qu'ils étaient sceptiques était un euphémisme. Mais ils avaient tout de même effectué des recherches et étaient venus ce matin lui annoncer que personne ne correspondait à ces critères. Que le site n'existait pas et que les seuls dénommés Brine vivant au Royaume-Uni et âgés de 33 ans résidaient à Chester, Aberdeen, Cardigan, Cardiff, Londres, Bangor, Newport et Dartmouth. Aucun banlieusard prénommé Brine n'avait 33 ans. Forcément, c'est logique, avait insisté Owen. Puisque les journalistes ont mis ma tête en une de tous leurs torchons, il a eu le temps de disparaître. Mais il est toujours sur les forums où j'allais. Cherchez-le. Il s'appelle « Tant pis pour ta gueule ». Vous verrez, c'est un des mecs les plus suivis. Un influenceur. Les gens le respectent. Et vous aussi, vous le respectiez ? Lui a demandé un inspecteur dont il n'a pas bien saisi le nom. D'une certaine façon. Mais pas comme ça, s'est-il repris rapidement. Quand il m'a donné la drogue, quand il m'a dit ce qu'il voulait que j'en fasse, ce qu'il voulait qu'on fasse, nous tous. Oui, tous les gens du forum. Les incels, donc. Owen n'avait pas trop aimé son ton méprisant. Comme s'il appartenait à la famille de Charles Manson, au Ku Klux Klan, ou s'il était un extraterrestre. Vous vous considérez comme un incel, Owen? Non, avait-il répondu en secouant la tête. Je suis allé sur ces forums, mais c'était juste une phase. C'était la conséquence de ce qui m'était arrivé au travail. J'étais énervé, j'étais frustré, je me sentais impuissant. J'avais besoin de me défouler, et ces forums m'en donnaient l'occasion. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais comme eux. Je n'avais pas ma place là-bas. Et Brine? Oui, parlez-nous encore de ce Brine. Il prononçait son nom comme s'il mettait des guillemets, comme s'il s'agissait d'un personnage de fiction. Brine était drôle, voilà. Beaucoup des utilisateurs de ces forums sont glauques, sans humour, ils prennent tout au sérieux. Brine était différent, charismatique. Il était très apprécié. Je l'admirais moi aussi. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai compris qui c'était en réalité. Et alors ? Il est fou, avait conclu Owen après un moment de réflexion. Mais à présent qu'il est assis en face de sa tante et qu'il pense aux injustices cruelles qu'il subit parce qu'il est célibataire, parce qu'il est bizarre, parce qu'il est seul, parce qu'il n'est clairement pas un homme assez bon ou honnête pour se trouver une partenaire qui lui donnerait des alibis pour couvrir ses crimes odieux, il sent que Brine et ses théories lui manquent. Pas le délire sur l'insémination des femmes contre leur volonté, mais son discours sur le manque d'équilibre du monde, qui fait que tout va vers les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Il voudrait parler de ce qui lui arrive avec quelqu'un qui verrait clairement les choses. Mais Brine s'est volatilisé. Brine, peu importe comment il s'appelle vraiment, a disparu comme le dé d'un tour de passe-passe. Pouf. Et maintenant qu'on a trouvé dans sa chambre la drogue du violeur, personne ne veut croire qu'il n'a jamais eu l'intention de l'utiliser. Il regarde à nouveau sa tante, qui observe ses cheveux avec insistance. « Tu peux te laver ici ?» Il hoche la tête. « Tu veux que je t'apporte du savon? Un shampoing qui sent bon ?» Il acquiesce de rechef. « Oui, s'il te plaît, » murmure-t-il. Et s'il te plaît, Tessie, est-ce que tu pourrais me rendre un autre service? Je t'en supplie, il faudrait que tu contactes quelqu'un de ma part. La femme avec qui je suis sortie à la Saint-Valentin. On se parlait tout le temps par texto, et on devait se revoir la semaine prochaine. Je ne voudrais pas qu'elle pense que je l'ai oublié, tu comprends? Owen, mon pauvre Owen, tu es dans tous les journaux, à la télé et à la radio. Je peux t'assurer qu'elle sait très bien pourquoi tu ne lui écris plus. Il ravale un nouvel accès de rage. Ferme les yeux, puis les rouvre doucement. S'il te plaît, j'y tiens. Qu'elle soit au courant ou pas, je veux qu'elle sache que je pense à elle. Que j'aimerais ne pas être ici. Que rien de tout cela ne soit arrivé. Que les choses soient... Tu vois? S'il te plaît, Tessie. Elle roule des yeux, puis sort un carnet et un stylo de son sac. Il lui dicte l'adresse mail de Diana, car il n'a pas retenu son numéro de téléphone. Dis-lui qu'elle est géniale, s'il te plaît, Tessie. Dis-lui que je ne suis pas le monstre dont il parle dans les journaux. Dis-lui que si elle veut venir me voir, je lui expliquerai tout. Dis-lui de venir, s'il te plaît. Rien d'autre, seulement ça. Tu vas le faire ?
Elle ferme les yeux et aspire l'intérieur de ses joues.
D'accord. Mais je ne mentirai pas pour toi, Owen. Je ne dirai que ce qui est vrai.
Non, ne dis rien d'autre que ce que je viens de te dire.
Elle soupire.
D'accord.
Elle jette un coup d'œil à sa montre. Je dois y aller, là. Je suis attendue à la boutique.
Mon Dieu, reprend-elle en se levant et grinçant des dents.
Qu'est-ce que je vais dire aux gens ? Ils vont me demander, Owen, c'est sûr.
Tessie travaille un après-midi par semaine à la librairie Oxfam dans le bourg de Hampstead. Cela lui donne bonne conscience.
Il la regarde partir.
Elle ne s'approche pas de lui, n'esquisse aucun signe d'au revoir. Elle part, tout simplement.
L'agent qui se trouve dans le coin de la pièce lui ouvre la porte et l'accompagne. L'autre agent, qui était assis à table avec eux, se racle la gorge.
Vous êtes prêts ?
Il se redresse et le suit jusqu'à la porte. Tessie laisse dans son sillage un mélange d'odeurs de velours poussiéreux, d'adoucissant premier prix et quelques notes d'iris.